Le droit et nous, dans la grande matinale avec Aloutal sur Africa numéro 1.
Voilà, c'est parti. Bienvenue à tous. Divorce, mode d'emploi, comment divorcer sans s'entretuer. Deuxième partie. On avait démarré la semaine dernière. On continue sur la question douloureuse de la séparation des couples, qui est encore plus douloureuse quand elle est accompagnée de tiraillements judiciaires sur l'exercice de l'autorité parentale et du droit de garde ou sur la pension alimentaire. Comme nous le disions la semaine dernière, pour ne pas lancer dans une guerre judiciaire inutile, il vaut mieux connaître ce que dit la loi sur le divorce et ses conséquences. Et n'oubliez pas, vous avez bien sûr la possibilité de nous appeler en direct au 01 55 07 58 00. N'hésitez surtout pas. Bonjour Aloutal.
Bonjour Phil.
En forme ce matin ?
Oui, en forme. J'ai un peu speedé avec le vélo pour ne pas être en retard, mais ça m'a donné de la pêche, comme on dit.
Voilà. Nous avons donc abordé la semaine dernière la question de l'autorité parentale, du droit de garde et de visite lorsque le couple se sépare. Pouvez-vous revenir sur les principaux points qu'il faut retenir et sur la pension alimentaire ?
Très bien. Je pense qu'avant d'entrer sur les causes du divorce, comme on l'a annoncé la dernière fois, on va faire le feedback sur les éléments qu'on a traités la dernière fois. En l'occurrence, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que la séparation des parents est sans incidence sur les règles d'évolution de l'exercice de l'autorité parentale. Ce n'est pas parce que vous avez divorcé que le parent qui a les enfants est présumé être celui qui exerce l'autorité parentale. On avait dit qu'il fallait distinguer entre le droit de garde et l'autorité parentale. C'est différent. L'autorité parentale, c'est ce qui donne le droit à chaque parent de participer aux décisions importantes qui impactent la vie des enfants dans leur intérêt, en fonction notamment, pour ce qui nous concerne ici et ailleurs dans beaucoup de pays qui ont adopté la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant, dans l'intérêt supérieur des enfants. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que le juge peut même décider d'attribuer l'autorité parentale à une tierce personne. Ça veut dire que si on estime que les deux parents sont indignes à garder, à exercer l'autorité parentale, le juge peut l'allouer à une tierce personne. Ça peut aussi être un organisme, en l'occurrence par exemple les institutions qui s'occupent de veiller aux intérêts des enfants qui sont maltraités ou bien qui sont victimes de violences familiales. Aussi, le parent qui empêche l'autre parent, le parent qui tend bien à l'autorité parentale, mais qui par des manœuvres, par des micmacs, par des restrictions, empêche à l'autre parent de participer à l'exercice de l'autorité parentale, engage sa responsabilité. Sa responsabilité, elle peut être civile, elle peut même être pénale à un certain niveau. Donc, il faut faire très attention à ce niveau. On avait aussi dit qu'il fallait retenir que le fait que vous ayez la faculté de décider pour les enfants parce qu'ils sont mineurs, ce fait-là induit une responsabilité. Ça veut dire que vous avez la charge d'entretenir les enfants ou l'enfant et de participer à leur éducation. Cela ressort d'une disposition fondamentale, l'article L371-2 du Code civil, qui est une disposition sine qua non que toute personne qui aura malheureusement ou heureusement une procédure devant un juge aux affaires familiales sera confrontée à cet article-là. On va vous dire, monsieur ou madame, est-ce que vous pouvez prouver que vous avez participé à l'entretien de cet enfant-là avant de prétendre à des droits ? Autre chose qu'il faut retenir, c'est que si vous avez même la garde de l'enfant, faites attention. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la garde de l'enfant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, partir avec les enfants en vacances sans avertir l'autre parent. Si vous le faites, vous pouvez tomber sous le coup d'un enlèvement d'enfant. Et là, c'est du pénal. Ça peut être très lourd.
Ça peut être très lourd,
Ça peut être très lourd. Et il y a des cas de figure où les personnes l'ont fait exprès pour empêcher l'autre parent d'entrer en contact avec l'enfant parce que le divorce ou la séparation s'est mal passé. Ce n'est pas de la responsabilité des enfants. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Ils ont des droits. Ils ont droit à un équilibre sociétal, un équilibre psychique et social et mental. Et quand il y a ces situations délétères qui impactent leur vie, ça peut laisser des blessures ad vitam aeternam.
Exact.
Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont vécu cette situation. Et donc finalement, on n'a pas vraiment le droit de le faire subir à des enfants qui n'ont rien demandé, surtout qui n'ont pas joué un rôle dans la participation de ces tensions familiales. Donc globalement, c'est ce qu'il faut retenir sur l'exercice de l'autorité parentale. En dernier lieu, aussi, on peut dire qu'en cas de séparation entre les parents, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est faite par le versement d'une pension alimentaire. Donc, pour rebondir sur votre question, cette pension est versée à l'autre parent qui doit utiliser cet argent pour l'intérêt des enfants. C'est très important. Parfois, il y a une procédure de divorce. le monsieur ou la madame accepte de donner une pension et que l'autre parent qui reçoit l'argent, au lieu de l'utiliser dans l'intérêt des enfants, l'utilise parfois lui-même.
L'intérêt personnel.
Ouais. On a vu des femmes qui utilisent cet argent pour acheter des cheveux naturels.
Je fais exactement.
Je donne un exemple, hein, c'est pas très d'accuser nos sœurs. Ou bien même parfois, pire encore,
une tension. Elle attend la pension pour s'acheter un nouveau sac.
Exactement, un sac Louis Vuitton ou autre, on va dire, par la publicité. Et même pire encore, une situation où la personne se plaignait parce que la personne, c'est un homme qui me disait que moi, ce qui me choque, c'est que je suis en train d'entretenir par ricochet le nouveau copain de mon ex. Parce que l'argent que je lui donne, il ne l'utilise pas pour ses enfants, il les a envoyés en Afrique. Ouais. Et finalement, je vois qu'il fait des cadeaux à l'autre monsieur, alors que moi, je tire le diable par la queue. Donc ça, c'est des situations très difficiles, hein, que j'espère
à
bien
accepter,
que...
Hein.
Effectivement. Et si votre enfant est majeur, comme on l'a souligné la dernière fois, la question qui a été soulevée par notre amie Madame Fatoumata Ndiaye, qui est assistante sociale, est-ce que la majorité de l'enfant va entraîner l'arrêt de l'obligation d'entretien et d'éducation? On avait dit que c'est non.
Ah.
Si les enfants sont majeurs et que ces enfants ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leur entretien, à leurs besoins, il incombe toujours aux parents de continuer de les entretenir. Maintenant, c'est au prorata des moyens de cet enfant-là. Je donne un exemple pour y revenir. On n'avait pas le temps de revenir sur cette question. On va donner des précisions pour toutes les personnes que ça peut concerner. Parce qu'effectivement, dans certains pays africains, une fois que l'enfant est majeur, l'obligation d'entretien des parents tombe. C'est le cas de beaucoup de pays. Par exemple, le Cameroun. D'ailleurs, j'ai eu une question d'un Camerounais qu'on va y revenir. Donc, très, très intéressante que j'ai relevée hier. Je lui ai promis qu'on va y revenir aujourd'hui sur cette question-là. Par exemple, là-bas, la majorité met fin à l'obligation d'entretien. Ici, la majorité ne met pas fin. Ça continue à condition que l'enfant n'ait pas des moyens pour subvenir à ses propres besoins. Si on donne l'exemple d'un enfant qui gagne 1000 euros, il travaille ça et là, il se débrouille comme étudiant. Cet enfant-là, si on estime que l'enfant a besoin de 1 500 euros pour vivre, ça veut dire que les parents lui doivent 500 euros. Pour ces 500 euros, si la maman gagne 1 000 euros et que le papa gagne 2 000 euros, ça veut dire que la maman doit participer au tiers.
Exact.
Et le papa doit participer aux deux tiers. Ça veut dire que le tiers de 500 euros et la maman le tiers de 500 euros, le papa les deux tiers de 500 euros. Donc voilà comment ça doit se faire. L'obligation continue, mais au prorata à la fois de vos moyens, de l'époux comme de l'épouse, ou bien de la mère et du père, et au prorata des moyens de l'enfant lui-même. Donc voilà ce qu'il fallait donc retenir globalement. En dernier lieu, on peut donner des indications préventives sur comment le juge, lui, va apprécier les modalités de détermination de la pension alimentaire. Quels sont les critères prépondérants au regard de la loi? Pour déterminer les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend en considération d'abord la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu avoir antérieurement. Ça veut dire que si, en général, c'est le papa qui entretenait plus souvent, le juge peut utiliser cet élément, comme on appelle une jurisprudence familiale. C'est un antécédent qu'il peut utiliser. Donc ça, c'est très important. Donc si vous ne pouvez pas assumer des charges après le divorce parce que vous êtes fâché, ne les assumez pas avant le divorce. Ça veut dire que continuez à faire ce que vous êtes sûr de pouvoir faire. Parce que le juge risque de s'appuyer sur ce que vous faisiez avant, parce que tout le monde était content. Il y avait les chéris et thèmes comme vous avez introduit la dernière fois. Et tout le monde est content, on pense que ça sera ainsi tout le temps. Donc il faudra vraiment assumer la coutume familiale. Et le juge va s'appuyer sur ce que j'appelle la coutume familiale. Aussi, les sentiments exprimés par l'enfant mineur sur les conditions de son traitement familial. Parce que l'enfant mineur peut être écouté par le juge aussi, c'est très important. On peut demander à l'enfant, qu'est-ce que vous pensez? Et puis parfois un enfant de 12 ans.
Est-ce qu'on peut demander à l'enfant de faire le choix?
On va lui demander d'exprimer ses préférences et ses besoins. Même si c'est un enfant mineur de 4 ans, le juge va l'écouter. Et après, c'est le juge qui va se baser sur son intime conviction en fonction de ce que dit l'enfant. La question est pertinente parce que est-ce que l'enfant a le bon entendement pour comprendre les manipulations parfois qui existent.
Exact.
Vous dites que ma maman est plus gentille alors que la maman l'a tout le temps manipulé depuis bébé, je n'ai même pas dit depuis 2 ans.
Ouais.
Avec le biberon, il a commencé à manipuler l'enfant.
Ouais.
Et l'enfant dit que moi, la personne qui est mon sauveur, mon bon samaritain, c'est ma maman. Alors que c'est une manipulation qui a été conçue d'elle de part. Ça peut être le papa aussi. Effectivement, cette question est très pertinente et en mon sens, le juge doit jouer un rôle très, très important. Sinon, effectivement, le parent le plus insidieux, le parent le plus mesquin peut avoir gain de cause alors qu'il relevait à l'autre parent d'avoir donc ce droit de garde ou bien ce droit à une pension alimentaire. Le juge aussi va s'appuyer sur l'attitude de chaque parent à assumer ses devoirs et à respecter les droits de l'autre. Ça veut dire que c'est votre moralité, vos comportements antérieurs. Si vous avez eu de petits incidents, ça et là, des comportements, des avertissements, des rappels à la loi, ça peut se retourner contre vous. Aussi, en dernier lieu, le juge peut ordonner des expertises éventuelles pour voir par rapport à l'âge de l'enfant, comme la question que vous avez soulevée, est-ce que l'enfant jouit carrément de toutes ses facultés?
Exact.
Est-ce que l'enfant ne fait pas montre des troubles psychiques qui l'empêchent d'avoir un bon entendement, un bon jugement. Mmh. Ce sont des éléments sur lesquels le juge peut s'appuyer. Et de même que des renseignements dans l'entourage, des témoignages dans l'entourage, ça peut faire l'objet d'une enquête. S'il y a eu des violences, par exemple, ça peut se retourner contre l'auteur des violences, que la violence soit physique ou bien la violence soit psychologique. On avait dit que la violence dont il s'agit, en ce qui nous concerne, au niveau familial, ce n'est pas que la violence physique. En général, c'est plus une violence psychologique, morale, mentale,
exact.
Et qui est plus délétère que la violence qui consiste à frapper ou à gifler. Donc voilà, globalement, des éléments qu'il faut retenir sur l'autorité parentale, sa dévolution et aussi son pendant, ça veut dire l'obligation pour les parents, chacun en ce qui le concerne, en fonction de ses moyens, de participer à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Alors, avant de partir au 01 55 07 58 00, hein, pour prendre les questions de nos auditeurs, Alutal, que dit la loi sur le divorce et quels conseils donnez-vous aux couples qui veulent divorcer ?
Très bien. Le conseil que je donne, et puis ce que le juge va faire, ici en France, on considère que le mariage est une institution.
Mmh.
Le mariage, d'abord, c'est une institution religieuse avant d'être une institution juridique. D'ailleurs, le droit lui-même en France était un droit divin, un droit canonné. Ça veut dire qu'il n'existe pas. Le code civil de Napoléon n'a pas toujours existé. Il date de 1804. Alors qu'avant, il y avait des règles sociétales qui régissaient la vie des gens.
Mmh.
Ces règles étaient d'inspiration religieuse, d'inspiration divine, d'où le droit canonné. Et ce droit a organisé dès le départ le mariage. Parfois, on n'avait même pas le droit de divorcer.
Mmh.
Dans certains pays jusqu'à présent, on ne peut pas divorcer. On peut se marier, mais on ne peut pas divorcer.
On n'a pas le droit de divorcer.
Voilà. C'est comme dans l'Église. La religion a beaucoup impacté la loi. C'est le cas en France. On a eu certes la séparation entre l'Église et l'État, la loi de 1905, mais l'impact culturel de la religion insiste beaucoup sur l'organisation, impacte beaucoup l'organisation du divorce. Ce qui fait que ce que je pense, moi, c'est ce que la loi pense et ce que le juge va penser. Ça veut dire qu'il faut d'abord essayer de voir si vous pouvez sauver les meubles d'abord avant de divorcer.
Exact.
Et la première solution au niveau juridique, c'est la séparation de corps. Ça veut dire que ce n'est pas la séparation de fait.
D'accord.
La séparation de fait, ça veut dire que vous êtes toujours marié, mais vous êtes séparé comme
vous
ça.
Vous vivez séparément.
Voilà, l'autre n'est pas content, vous y allez, l'autre va là-bas, fil d'or à Carcassonne, je veux dire... Madame X va dormir là-bas, je donne fil. Je ne vais pas donner fil parce que j'ai plus du bois. Pour ça, vous arrivez pas, cher ami. On va dire, mon ami Mamadou Tal dort quelque part. C'est sa copine Fatoumata Ndiaye dort là-bas. Et puis, ça, c'est une séparation de fait.
Mm-hmm.
Qui, effectivement, peut avoir des impacts indirects sur le lien matrimonial, mais pas direct. Alors que la séparation de corps, c'est une décision. Ça veut dire que les époux ont décidé de maintenir le lien matrimonial,
ouais.
Mais de ne pas subir les effets. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité donc, de ne pas vivre ensemble sous le même toit, mais tout en gardant le lien matrimonial. Ça peut être pour des intérêts au niveau de la succession. On ne s'entend plus, mais on est des majeurs, on ne va pas se tirailler. On va demander au juge de constater que notre union n'existe plus dans les faits, mais existe dans le droit.
Mmh.
Ainsi, si par exemple, par malheur, il y a un des époux qui partait, qui décédait, l'autre époux va continuer de bénéficier des effets au niveau de la succession.
Mmh.
Parce que la femme ou l'homme peut avoir des droits successoraux quand son époux n'est plus là. Et ça, c'est très important.
Mmh.
Mais là où c'est un peu dangereux, c'est que vous êtes séparés de corps. Ça veut dire que techniquement, il n'y a plus l'union matrimoniale.
Exact.
C'est juridiquement qu'il y a cette union.
Mmh.
Ça veut dire que M. X peut aller voir à gauche, à droite, vous comprenez ? Mme X peut aussi avoir...
À gauche, à droite.
À gauche, à droite, vous comprenez ce que je veux dire ? Pour avoir une vie intime, on va dire ça.
Mm-hmm.
Pour avoir une vie intime. Le danger, c'est qu'il peut y avoir un enfant s'il y a une vie intime.
Ah.
Obligatoirement. Si les enfants ont l'amour, il y a une probabilité qu'un enfant naisse. Et ça arrive. Quand ça naît maintenant, le danger, c'est que dans le cadre d'un couple, la loi présume que l'enfant qui est né dans le couple a comme père le mari de sa mère.
D'accord.
Et que non seulement on considère cela, mais on le considère même... Avant même sa naissance, 300 jours avant sa naissance, on considère que non seulement l'enfant est né et que son géniteur, c'est l'époux de sa mère.
D'accord.
C'est la relève, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis un adage très long, qui existe depuis très longtemps, qui dit « infans conceptus pronato habetur ». L'enfant conçu est présumé né à chaque fois qu'il y va de son intérêt. Dans l'intérêt de l'enfant, il y a la détermination de la filiation. On considère que celui qui a la filiation, c'est le père. Dans l'hypothèse d'une séparation de corps, cette présomption de paternité saute. Parce qu'on sait bien que les gens peuvent aller voir là où ils veulent.
Mmh.
Donc, ça va créer une situation ubuesque. On est là, je ne suis plus présumé être le père, ça peut être n'importe qui, parce que ça se pourrait que la maman est partie voir ailleurs. Le danger, c'est en cas de réconciliation, vous comprenez ce que ça va créer. Il peut y avoir un enfant dont la filiation sera difficile à établir. Et parfois, même si l'époux accepte cette filiation, ça se pourrait qu'effectivement, il y ait un autre monsieur X qui est le père.
Mmh.
Donc, d'où des contentieux en matière de reconnaissance et de contestation de paternité. Ça, c'est le danger, donc l'écueil pour la séparation de corps. aussi, oui. On va y revenir tout à l'heure. Sur les autres, il y a d'autres formes de divorce sur lesquelles on va y revenir avant de prendre les questions de nos auditeurs.
Comment divorcer hein, sans s'entretuer ? C'est donc la deuxième partie. Vous êtes déjà très nombreux à nous appeler. Hein, Monsieur Diaby, Idriss, Mariama, ne bougez surtout pas. Dans quelques instants, vous serez en direct. On marque une pause et on revient juste après.
Grande matinale avec Aloutal sur Africa numéro 1.
Divorce, mode d'emploi, comment divorcer hein, sans s'entretuer. Deuxième partie, on continue hein, sur la question douloureuse de la séparation des couples qui est encore plus douloureuse quand elle est accompagnée de tiraillements judiciaires sur l'exercice de l'autorité parentale et du droit de garde ou sur la pension alimentaire. Comme nous le disions la semaine dernière, pour ne pas se lancer dans une guerre judiciaire inutile, il vaut mieux connaître ce que dit la loi sur le divorce et ses conséquences. 01 55 07 58 00. On va prendre la question de Diaby, mon frère qui est en Espagne. Son épouse est ivoirienne. Elle a emmené hein, les enfants sans le prévenir en Côte d'Ivoire. Quelles sont les procédures à suivre ? C'est bien cela, hein, monsieur Diaby. Bonjour.
Bonjour, monsieur Field.
Oui,
nous bonjour, monsieur Diaby.
Bonjour, monsieur Tal.
Bonjour.
Oui, c'est ça mon question. En fait, parce que ça fait 7 ans maintenant, il est avec les enfants là-bas. On a essayé tout pour négocier avec ses parents, mais par contre, ce qui nous dit qu'il faut qu'on amène l'aussi ici en Europe, mais sinon, les enfants ne vont pas se retourner au Sénégal. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, attends, je vous appelle pour voir.
D'accord. En fait, il faut recommencer. C'est votre frère qui est concerné?
Oui.
Il vit en Espagne?
Oui.
Et vous dites que votre frère, il est de quelle nationalité ?
Il est sénégalais.
Sénégalais.
Il est sénégalais, ah, d'accord. Et oui. Sa femme est ivoirienne ?
Oui.
Et elle a emmené les enfants en Côte d'Ivoire ?
Oui.
Et ouais. Eux deux, ils vivaient en Espagne, tous les deux ?
Non. En fait, la femme, elle était au Sénégal.
D'accord.
C'est là-bas, les enfants, ils sont nés, grands. Bon, commencé okay. À grandir. Après, avec son clan de la frère de son frère, il a amené les enfants.
Ah, d'accord, je comprends. Et votre frère, lui aussi, a quitté la femme ? Pour venir en Espagne?
Non, lui, il était immigré avant de marier la fille.
Ah d'accord, il était immigré,
oui.
Il est parti, il a épousé là-bas une femme ivoirienne qui était au Sénégal.
Oui.
Et cette femme est rentrée au pays avec
oui.
ses enfants?
Avec les enfants.
Très bien. Vous voulez savoir qu'est-ce que votre frère peut faire pour avoir le droit?
Oui.
Sur ses enfants?
Oui.
Donc, et le mariage a été célébré où?
Au Sénégal.
Le mariage a été célébré, c'est un mariage de droit sénégalais. Très bien. Et vous savez, au fait, au niveau du droit sénégalais,
oui.
c'est un peu le code civil français, mais qui a été un peu rafistolé en tenant compte des réalités coutumières religieuses locales avec une loi de 1972 qui fait œuvre de ce qu'on appelle le code de la famille sénégalaise. On ne parle pas là-bas de code civil. Mm-hmm. Et ce code tient compte un peu des réalités sociétales. Dans ce code, il est dit que c'est l'homme qui exerce, ça veut dire le statut de chef de famille. Mais qu'il y a une évolution, ça ne veut pas dire que la femme n'a pas son mot à dire. Ça veut dire que si votre époux, même s'il vit ici, ce que font beaucoup d'immigrés, ils laissent là-bas leur femme.
Oui.
Je ne sais pas s'il l'a laissé longtemps, parce que si lui-même il a laissé la femme depuis plus de 2 ans,
oui.
est-ce que légitimement la femme n'a pas le droit de quitter, si elle est ivoirienne, pour retourner dans son pays d'origine avec ses enfants? Vous comprenez un peu la tension. Il ne faut pas juste dire que oui, la femme a enlevé les enfants. Peut-être que le monsieur a fait un abandon de domicile. Pire au Sénégal, si vous restez 2 ans, ce que font beaucoup d'immigrés, je dois le dire, sans donner
oui.
des nouvelles,
oui.
on peut considérer que vous êtes absent. Or, dans ce droit sénégalais, l'absence est une cause péremptoire de divorce. Ça veut dire que la femme aurait à la fois le droit de divorcer au tort exclusif de votre frère, et ce qui lui donnerait même le droit de garde et le droit exclusif sur l'autorité parentale si elle le veut. Donc, votre question est intéressante parce qu'on va donner conseil à tous ces immigrés africains qui, dans leur droit interne, ignorent que le fait de s'absenter sans donner de nouvelles, ça ne veut pas dire juste s'absenter.
Ouais.
Il faut s'absenter.
Mais
on travaille, on donne des nouvelles. Oui.
En fait, le cas de mon frère, parce que le dernier enfant est né devant mon frère. Le 3 mois de la naissance de l'enfant là, la fille avec son frère, ils ont envoyé des transports, il est parti.
Ah d'accord. Donc ça veut dire qu'il y avait pas votre frère était en contact, n'avait pas abandonné un peu, il y avait pas d'abandon.
Non.
Il donnait des nouvelles.
Il donnait des nouvelles.
Et que l'enfant était né récemment.
Oui. Oui.
D'accord. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut contacter au niveau du juge sénégalais qu'il faut faire dans cette démarche là. Il faudra voir si le lien. Le lieu de leur vie, le lieu du foyer, c'est le Sénégal, même si le frère, lui, il est ici pour des raisons professionnelles.
Oui.
À partir du moment où le lieu de vie des enfants, c'est au Sénégal, Le mariage est focalisé. C'est des questions de droit international privé. Peut-être on va y revenir une prochaine fois. Quand il y a plusieurs lois qui sont en jeu, quelle est la loi compétente pour déterminer le statut personnel des individus? C'est une question très technique en droit. C'est la question la plus technique en droit, ce qu'on appelle les questions de droit international privé, mais qu'on peut résoudre. Et donc, a priori, ce que je peux vous donner pour votre frère, c'est qu'il doit vérifier, il doit s'assurer que lui, il était en contact régulier, même s'il vit en Europe avec son conjoint, sa femme en l'occurrence. Et que le lieu de célébration du mariage, c'est le Sénégal. Oui. Le lieu du foyer, c'est le Sénégal. Dans cette condition, cette femme aurait tort de partir, comme je l'ai dit antérieurement, sans pour autant avertir son, votre frère, en l'occurrence son conjoint. Effectivement, elle pourrait être sous le coup d'un enlèvement d'enfant. Ça veut dire qu'il faut qu'il saisisse un avocat sénégalais au Sénégal. Voilà, parce que c'est mieux de saisir un avocat au Sénégal. Notre avocat peut le faire, mais le problème, c'est que le droit sénégalais est différent du droit civil français ou ailleurs. C'est différent. C'est un droit civil qui est tiré du code de Napoléon, mais qui s'adapte aux réalités de 68 coutumes qui ont été donc recoupées pour créer ce code-là en tenant compte des réalités religieuses, chrétiennes, islamiques, des croyances traditionnelles et aussi des coutumes traditionnelles. Mais néanmoins, vous avez le droit, d'accord, de saisir cet avocat sur place et de demander à ce qu'une procédure soit diligentée pour exiger à ce que cette femme ramène les enfants-là. Par contre, il y aura une décision qui sera prise par l'autorité sénégalaise. Il faudra faire de sorte que cette décision ait une force probante dans le fort ivoirien. Ça veut dire en droit ivoirien. Votre frère ne pourra pas se déplacer d'un pays à l'autre. Il y a ce qu'on appelle l'exéquature. Ça veut dire que c'est une procédure que l'avocat connaîtra, qui donnera comme une décision, une copie judiciaire d'une décision qui sera exécutable en Côte d'Ivoire. D'accord? Et comme ça, là, les autorités ivoiriennes pourront forcer la dame à ramener l'enfant. D'accord?
D'accord.
Merci beaucoup, monsieur Diaby. Merci. Nous avons beaucoup de questions. Nous avons notamment la question de Mariama. Les enfants vivent chez leur père et on me demande une pension alimentaire, sachant que je ne gagne que le SMIC. Que faire, Mariama? Bonjour.
Oui, alors bonjour.
Bonjour, Mariama.
Bonjour, monsieur Pal. Bonjour, Phil.
Bonjour. nous avons quelques soucis d'écoute avec vous, Mariama, votre téléphone. Allô?
Allô?
Oui, allez-y, nous vous écoutons, c'est toi.
Excusez-moi. Donc, en fait, depuis un an, les enfants, j'ai deux garçons qui vivent chez leur père.
Et qui ont quel âge?
Ils ont 7 ans et 11 ans.
Donc mineur, oui, qui est parfait.
Exactement. Auparavant, ils vivaient avec moi. Et en fait, depuis un an, ils vivent chez leur père. Leur père me demande une pension alimentaire. Il s'avère que je ne gagne que le SMIC. Je ne sais pas comment c'est, calculé, comment je dois faire, en fait.
Très bien.
Voilà.
Ok, parfait.
À côté de ça, je suis en ménage et j'ai un enfant à charge.
À côté de ça, j'ai pas compris. Avant l'enfant en charge, vous avez dit quoi?
Je suis en couple.
En couple, d'accord, en ménage, d'accord, parfait. Vous êtes en couple.
Oui.
D'accord. Et vous avez un enfant en charge?
Oui.
Est-ce que le fait que les enfants vivent avec leur père, c'est une décision judiciaire ou bien c'est une convention entre vous? C'est un accord de fait? Vous êtes arrangé comme ça?
Oui, on s'est arrangé comme ça, mais on est passé par la juge.
Ça a été validé par le juge aux affaires familiales?
Exactement.
Très bien. Et dans cette décision du juge, il n'a pas pris une décision sur la dévolution, certes de l'autorité parentale, mais de la pension alimentaire. Il n'y avait pas quelque chose qui parlait de la pension alimentaire?
Si, tout à fait. C'était retour, lorsque madame reviendra, retour à meilleure fortune, parce qu'à ce moment-là, je ne travaillais pas.
Très bien.
Et depuis un an, j'ai un contrat. Voilà, c'est ce contrat-là où j'ai un...
Très bien. Voilà, ce que je veux vous conseiller. Vous êtes de bonne foi. C'est quelqu'un qui, prend cette décision-là, donc d'aller voir quel est le sens de ses responsabilités. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de demander au père de vos enfants, de vos deux enfants, de vous envoyer par la voie normale, je veux dire avec un acte, une trace, recommandé avec avis de réception.
Un recommandé.
Ou bien par autre moyen, c'est plus soft que la voie du UCA, ne passez pas par là, de vous dire quelles sont ses prétentions, combien il vous demande comme participation. Et que, avec cette demande, qu'il vous marque combien lui il gagne.
D'accord.
Ça, ce sera très important. Parce que s'il vous dit ce qu'il gagne et quelle est l'étendue de ses charges, techniquement, il ne pourra pas exagérer. Et il ne peut pas non plus frauder, parce que quand on fraude à ce niveau, ça devient du pénal, ce n'est plus du civil. Il faut lui dire que vous m'avez sollicité pour que je participe à l'entretien des enfants, à leur éducation, à travers une pension. Je suis d'accord dans le principe. Je vous demande de me dire quelles sont vos prétentions concernant cette demande de participation. Et en même temps, de me communiquer quels sont vos moyens au tenter pendant que vous demandez. Vous faites cette demande et aussi quelle est l'étendue de vos charges. D'accord? Si on vous donne ça, Vous êtes tenu de participer quels que soient vos moyens, mais vous ne participerez qu'en fonction des moyens que vous avez. Vous avez déjà que le SMIC. vous avez déjà un enfant en charge. Vous allez faire la même chose, vous faites votre tableau. J'ai le SMIC, je gagne 1200 euros, j'ai un enfant en charge. Cet enfant en charge, je participe à son entretien avec un autre homme avec qui je vis. Vous voyez quelle est la participation de cet homme-là sur les charges de l'enfant. On estime que l'enfant, vous avez besoin pour l'entretien de 1000 euros et que votre homme participe à hauteur de 600 euros. Vous, pour le reste, vous participez à hauteur de 400 euros. Donc, vous gagnez le SMIC. Je donne un exemple, vous me suivez.
Oui.
Du SMIC, vous défalquez 400 euros. Il ne vous reste que 600 euros qui vous permettraient de participer à la prise en charge des autres enfants. Vous comprenez?
Oui.
Donc,
oui.
Ce sera à concurrence de 600 euros et en fonction de lui, ce qu'il gagnera. Vous pouvez faire un tableau tout simple. Il vous donne ça et vous partez de ça. Si les éléments qu'il vous donne sont tangibles, font foi, vous faites le calcul, vous leur dites qu'en fonction de moi, ce que je gagne, en fonction de mes charges et de la déduction de la participation de mon homme actuel, voilà ce que je dois donner. En mon sens, vous ne devriez pas participer pour les deux enfants au regard des frais que vous aurez, parce que sur 600 euros, vous avez des frais existentiels, vous devez vivre vous-même, vous avez des charges de la maison auxquelles vous participez. Il me semble que même s'il gagnait le SMIC, vous ne devriez pas participer à plus de 50 euros par enfant. Voilà.
Ah ben, voilà, c'est
l'estimation, 50 euros maximum ou 75 euros maximum par enfant, oui.
Justement, excusez-moi, j'ai oublié de
rapidement.
Que moi, j'avais déjà écrit un recommandé en disant que j'étais en mesure de pouvoir participer à hauteur de 40 euros par mois, par enfant et par mois. Et il l'a refusé. Et sachant que cette personne-là est gérant d'une société.
Alors, dans ce cas de figure, vous lui dites que s'il a refusé, le juge avait laissé une brèche pour que vous trouviez un compromis. Si ce n'est pas le cas, il faut laisser à lui de prendre la latitude de recontacter le juge pour que le juge décide. Le juge peut décider ponctuellement sur un cas de figure. Il ne va pas revenir sur votre séparation. Il va juste revenir par ordonnance sur la répartition de cette obligation. Et ça se pourrait que vous n'ayez pas à donner 40 euros. S'il ne fait pas attention, peut-être que vous allez donner 20 euros ou 10 euros ou peut-être 0 euros. 40 euros, c'est déjà assez gentil avec votre SMIC.
J'ai vraiment tout. Tout est en ordre. Tous les justificatifs sont...
Ah oui. Non, là, vous pouvez être tranquille, 40 euros pour moi, c'est déjà assez raisonnable par rapport à SMIC. Même s'il gagne, en tant que gérant, peut-être qu'il va gagner le double. Il peut gagner facilement le double.
Complètement.
Et s'il gagne le double, je pense que voilà, effectivement, voilà, ça sera ainsi résolu.
Voilà, merci beaucoup, Mariama.
Je vous en prie.
Voilà, merci Mariama, passez une excellente journée. On va enchaîner avec Fatoumata, une dame veut divorcer depuis 18 ans. Le mari n'a pas donné son accord pour... Le divorce, un divorce qui n'est toujours pas prononcé. Bonjour Fatoumata.
Oui, bonjour Phil, bonjour.
Bonjour.
Ah, c'est Madame Fatoumata Niel, l'assistante sociale.
Oui, c'est encore
moi. Ah, bienvenue Madame Fatoumata.
Ça fait plaisir de vous recevoir, notre assistante préférée.
Voilà.
qui n'accable pas les hommes, c'est pour ça qu'on vous aime, madame.
Non, on est juste de deux côtés.
Qui n'est surtout pas féministe. Hein.
Voilà, qui est humaniste, on va dire. Voilà.
Oui, ben,
Madame Fatoumata.
Alors, dites-nous.
Alors, en fait, j'accompagne en ce moment une dame qui veut quand même vivre sa vie, mais il y a, selon la loi française, il y a des choses qu'elle ne peut, par exemple, juste se remarier. C'est pas possible parce qu'elle est déjà mariée, mais 18 ans, ils vivent plus ensemble, mais je ne sais pas pourquoi le mari actuel ne veut pas divorcer. Donc, elle me dit que j'ai pas les moyens de prendre un avocat.
Je
donc
comprends pas bien. Oui.
Qu'est-ce qu'elle doit faire, s'il vous plaît, si vous avez la
réponse. Effectivement, on va profiter de ça pour.
Élément de réponse, oui.
Pour répondre aussi aux autres formes de divorce, comme ça, c'est une question qui va nous permettre de traiter ça avant de reprendre rapidement les auditeurs. Donc, ça, en fait, c'est déplorable. Pour moi, c'est une forme d'esclavage moderne.
Ouais.
Obliger quelqu'un à rester dans un lien conjugal alors qu'il y a plus de. On ne consomme plus le mariage, pour moi, il faut être vraiment méchant pour le faire, que ce soit un homme ou une femme, C'est pourquoi ces questions sont très délicates. C'est une question de vie humaine qui parfois, moi, ne me... C'est des questions qui ne me plaisent pas parce qu'on est obligé de se ranger d'un côté ou de l'autre. Mais néanmoins, on peut se ranger du côté de ce qui semble être le bon sens. Je pense que la majeure partie des gens vont comprendre que ce n'est pas normal de retenir quelqu'un dans un lien factice.
Incroyable.
Ah oui, c'est un lien factice, c'est un lien qui n'existe pas du tout. Donc, ce qu'il faut pour cette dame, heureusement que la loi a fortement évolué, il y a maintenant beaucoup de formes de divorce qui permettent à cette femme de se séparer. L'avocate ou l'avocat peut solliciter pour cette dame l'aide juridictionnelle. Si on n'a pas les moyens dans ces cas de figure, à part le divorce par consentement mutuel, qui est une des formes de divorce, qui n'est pas un divorce contentieux, ce n'est pas une procédure contentieuse, les autres formes sont des formes contentieuses qui nécessitent l'intervention du juge aux affaires familiales, qui va d'abord voir s'il y a une conciliation possible ou pas, et après va faire l'assignation et décider du divorce. Donc cette femme peut demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Le lien conjugal est définitivement altéré. Il n'y a plus de consommation. On est d'accord ? Donc, vous pouvez l'aider en tant qu'assistante en faisant une requête préliminaire rapide. Hein. Vous n'êtes pas obligé, même l'avocat n'est pas obligé et même ne peut pas donner les motifs et les causes juridiques de cette requête. Ça veut dire que vous pouvez le faire vous-même. Vous comprenez ? Vous n'êtes pas obligé de donner les motifs de droit. On ne doit pas le faire dans ces conditions pour des questions de confidentialité. Juste écrire pour dire que je demande, j'introduis une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal. Après, ils seront convoqués séparément. Le juge va constater carrément que ce mariage n'existe plus. Et donc, automatiquement, le divorce aura lieu assez facilement. Si la présence d'un avocat est obligatoire pour une homologation, s'ils sont d'accord, effectivement, elle pourra bénéficier d'une aide juridictionnelle. Ça, c'est juste pour des formalités. Parce qu'on veut que la présence d'un avocat soit là pour que les gens soient au parfum de l'étendue de leurs droits et de leurs obligations. Il y a aussi une autre possibilité. On parle d'elle, mais c'est pour tous les autres qui nous écoutent. Dans ce cas de figure, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Mais là, ça veut dire que l'autre, le mari, peut être d'accord à ce niveau-là. Ce qui va être peu plausible, s'il l'a maintenu ainsi pendant 18 ans, peut-être qu'il va refuser de venir pour qu'il y ait une procédure de non-conciliation. Mais néanmoins, le juge peut suivre cette personne dans ce sens-là et acter, même si l'autre partie, ça veut dire le conjoint, ne l'acceptait pas. Et aussi, le fait d'abandonner ainsi une femme, de maintenir cette femme dans cette situation délétère, c'est une faute.
Est-ce qu'elle peut, justement, j'allais poser la question, poursuivre par la suite ce monsieur ?
Ah, c'est clair.
Oui, effectivement, sur le plan civil. Apparemment, c'est là où vous allez en venir, c'est ça qui est pertinent. Parce que si on considère que le fait de maintenir cette personne dans une relation qui n'existe pas, et de contraindre la personne à rester dans cette relation, sans pour autant honorer ses obligations conjugales et matrimoniales, c'est une faute.
Ouais.
Donc, elle peut prétendre à un divorce pour faute. Et subséquemment, elle peut demander la réparation en dommages et intérêts sur le plan civil. Ah. Parce qu'effectivement, sur le plan quasi-contractuel, quasi-délictuel, comme on l'a toujours dit, il y a un fait qui est préjudiciable. Il y a un rapport de causalité entre le fait et la situation que vit cette femme, une situation très difficile. Et donc, effectivement, sa responsabilité peut entrer en vigueur et en jeu. Par contre, cette dame, je pense que sa priorité, ce n'est pas les dommages et intérêts. Sa priorité, c'est de sortir donc
de
ce piège.
Simplement.
C'est un piège, au fait. Donc, ce que je conseille, in fine, c'est de privilégier le divorce pour altération définitive du lien conjugal. Écrivez un courrier sommaire, vous l'envoyez au juge aux affaires familiales du tribunal de son domicile, parce qu'apparemment, ils ont le même domicile jusqu'à présent.
Et non, ils n'ont pas le même domicile. Le monsieur, elle vit dans le 93, elle vit dans le 78. Donc
oui, mais le domicile conjugal, là, ça, c'est la résidence. Est-ce que le domicile conjugal a changé ? Apparemment, ils n'ont pas divorcé. Le dernier domicile du couple continue à être le domicile conjugal.
Non, ils ont changé.
Ils ont changé d'appartement tous les deux.
Ils ont changé tous les deux. Donc, on peut le faire...
Oui, je ne sais pas, mais elle m'a dit qu'elle a déménagé deux fois.
Donc, il faut le faire à son domicile, au juge, aux affaires familiales du tribunal d'instance de son domicile à elle.
Dans le 78.
Ils ne sont pas divorcés, on peut le faire au tribunal du domicile de chaque conjoint. D'accord ? Et vous l'envoyez, effectivement, ce sera le premier acte de la procédure. Ils seront convoqués par les juges et ainsi de suite, la procédure aura lieu et le divorce aura lieu. Et sans beaucoup de frais, parce qu'elle pourra prétendre, comme elle n'a pas de moyens, à l'aide juridictionnelle, au cas où la présence d'un avocat serait nécessaire.
D'accord. Voilà, merci beaucoup Fatoumata.
Merci Fatoumata.
Et à la semaine prochaine. Bonne journée. Voilà, on parle donc de divorce, hein, comment divorcer sans s'entretuer, c'est la deuxième partie. On va prendre Monsieur Chibi, hein. Ma femme est une Sénégalaise et a fui au Sénégal avec mes enfants, comment faire, hein. Je suis quelque peu perdu. C'est bien cela Monsieur Chibi ?
Oui, bonjour.
Bonjour,
bonjour.
Bonjour.
Je vais poser une question pour monsieur Maître Tal.
Monsieur Aliou Tal. Je m'appelle monsieur Aliou Tal. Hein. J'insiste beaucoup. Je vous remercie de dire ça parce que hier, j'ai entendu Ayuta. En fait, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est moi. Vous me permettrez de dire à tout le monde, effectivement, parce qu'il y a des gens qui me confondent aussi à d'autres personnes, je vais le répéter encore, et peut-être que les gens, ça les plaise. Aliou, mon nom s'écrit, moi, ça, c'est mon prénom.
Parce qu'il y a des usurpations sur les réseaux sociaux, donc
En tout cas, il y a des confusions.
Sur Facebook.
Mais moi, il faut mettre Aliou Tal, juriste. A-L-I-O-U. C'est pas pour vous, hein. J'en profite pour dire à tout le monde que mon prénom s'écrit ainsi. Mon nom de famille s'écrit T-A-2-L, comme grand, Toul ou bien Tal. Allons-y maintenant.
Monsieur Chibi.
Monsieur Chibi, alors, allons-y.
Oui. Alors, donc, j'ai une simple raison, hein, parce qu'il y a une simple histoire. Hein. Bon, ma femme chaque année, je pars au Mali. Et puis, voilà, depuis 17 ans, presque bientôt 20 ans même, en mariage. Il y avait 5 enfants. Et puis, ma première, déjà, il a 18 ans. Et puis, en 2016, quand j'ai quitté ici pour aller au Mali, j'ai tout préparé. J'ai envoyé des familles pour la préparation. Comme j'arrive pour faire un coach de 2 mois. Bref, et puis, j'ai envoyé l'argent. Il a reçu cet argent-là. Et il disait que son père, il est décédé. J'ai pas été temps d'y aller au Sénégal pour le condoléances, mais j'ai envoyé l'argent, j'ai envoyé et mes frères pour aller faire accompagner. Mmh. Et ta maman aussi, elle est décédée. Et puis, je peux être toujours, je suis là. Et puis, j'ai accompagné mes frères. Il est parti avec, accompagné avec elle. Et puis, simplement, il disait qu'il soit là, t'es là. Il n'y a que ça. Donc, à cette date-là, après, il est fouillé. Et les enfants, il a mis 2 000 francs. Et moi, le jour même, j'ai déparé à Paris, à Bamako, le soir. Elle est fouillée avec les enfants, elle est partie. Pendant un mois, je cherchais partout, je ne sais pas où. Mmh. Elle a levé la piste pour le téléphone, il ne faut pas que je contacte. Et les enfants, pareil. Mmh. Elle est partie. Et puis pendant un mois, moi j'ai parti 2 mois, un mois, j'ai eu des courants comme quoi il est au Sénégal. Je ne sais pas, j'ai contacté comment, je n'ai pas de contact.
D'accord. En fait votre femme vivait où avec M. Chibi, votre femme vivait où avec les enfants? Quel était son lieu de vie?
À Bamako,
on m'a dit. À Bamako. Okay, non, pas on m'a dit. Parce que vous deviez savoir, là où vous viviez. Je veux dire, en temps normal, vous viviez où avec votre femme et vos enfants?
Au Mali, je vis au Mali. C'est ma maison.
Donc vous vivez au Mali, vous ne vivez pas en France alors?
Oui, je suis en France, mais j'ai laissé là-bas et je vis avec mes enfants au Mali.
D'accord, vous avez épousé votre femme, elle n'est jamais venue ici. Elle était au Mali, c'est une Sénégalaise qui était au Mali.
Et qui a fui au Sénégal avec les enfants.
Et qui a fui du Mali au Sénégal.
Voilà.
Elle n'est pas passée par la France, elle n'a jamais vécu en France. On est d'accord, c'est ça?
Non, jamais arrivé ça.
Très bien. Et donc voilà, après, donc, elle a quitté le domicile conjugal pour aller se réfugier au Sénégal, c'est ça?
Exactement. Et il est fouillé pendant 17 ans et après. Il était là, il s'est parti en 2016.
Pendant 17 ans, vous dites?
Pendant 17 ans, il est au Mali, il est à Bamako.
Ah, d'accord, je comprends très bien.
Voilà, tous les enfants qui sont tous nés à Bamako.
Très bien.
Il y a un problème, il n'y a pas d'histoire. Et puis un jour, il est révolté comme ça, comme quoi que j'ai pas été à Condéla, c'est sa maman ou son père qui était
très bien.
Ok, je comprends. Monsieur Chibi, nous n'avons plus assez de temps, on va vous répondre très rapidement.
Ouais. En fait, ce qu'il faut faire, vous n'êtes pas obligé de passer par la juridiction française parce qu'il n'y a aucun élément de rattachement avec la juridiction française. Votre épouse n'a pas vécu ici, vos enfants ne sont pas nés ici, c'est entre la juridiction malienne et sénégalaise. Voilà, vous avez le choix entre faire la procédure depuis le Mali, mais à votre place. J'aurais diligenté un avocat malien pour qu'il fasse la procédure au Sénégal avec son confrère au Sénégal. Ce sera plus rapide. Et cette femme ne pourra pas vous échapper. Vous ne pouvez pas la joindre. Mais là-bas, elle est identifiée. Ouais. Vous avez son nom, vous avez les noms de vos enfants, vous avez l'acte de naissance. Avec tous ces éléments, on va retrouver la femme et il y aura une décision qui sera prise. Effectivement, dans ce cas de figure, on ne peut pas ne pas dire qu'il y a, fuite et enlèvement d'enfants. Effectivement. À supposer que vous-même, vous n'ayez pas abandonné votre femme, comme j'ai dit préalablement. Si vous l'aviez abandonnée pendant un temps, elle aurait le droit de partir. Si ce n'est pas le cas, s'il n'y a pas d'abandon, parce que vous êtes en Europe, s'il y a des gens, comme je l'ai dit, qui restent en Europe, qui oublient leur femme, bon, si c'est juste qu'elle est fâchée parce que vous n'êtes pas parti présenter les condoléances, ce que moi-même, je vous reproche, hein, parce qu'on a toujours le temps. Vous savez même qu'au niveau professionnel, si vous perdez un membre de votre famille latérale ou collatérale, vous avez le droit de prendre un congé pour partir, donc vous avez eu le temps. Mais ça ne justifie pas qu'elle parte avec vos enfants. Donc je vous conseille de faire la procédure, soit au Mali, mais de préférence au Sénégal. Et effectivement, vous aurez donc une audience, un jugement, et effectivement, vos droits seront rétablis. C'est ce que je vous conseille.
Merci beaucoup, Monsieur Chibi. Nous avons en moins de 3 minutes pour prendre Monsieur Doucouré, marié depuis 2013 jusqu'en 2016, après violence conjugale. Ma conjointe a été condamnée quand elle est sortie. J'ai demandé le divorce. C'est bien cela, Monsieur Doucouré?
Oui, c'est bien cela. Donc, du coup, elle a demandé le divorce. Donc, du coup, on a dit, bon, pour que ça soit plus rapide, voilà, on a fait un truc à l'amiable. Donc, on a fait un truc à l'amiable. Pour moi, ça va être plus rapide normalement.
Voilà. En deux minutes, on va vous répondre parce que nous n'avons plus suffisamment de temps, Lutal.
J'ai pas compris encore la question, oui.
Aujourd'hui, ça se trouve que, voilà, là, on est passé devant le juge. Parce que j'ai pu entendre tout à l'heure quand vous parlez que pour le consentement à l'amiable, on n'a pas besoin de passer devant un juge. Sauf que nous, on est passé devant un juge et depuis plus d'un an, je suis séparé de fait depuis plus de 2 ans et demi. Et depuis un an, je suis séparé légalement avec le certificat de non-conciliation. Mmh. Et à ce jour, je n'ai pas toujours le divorce qui a été prononcé. Et chaque fois que j'appelle mon avocat, je ne sais pas, monsieur n'a jamais le temps. Je ne comprends pas en fait qu'est-ce que je dois faire finalement.
D'accord. Voilà. D'abord, une précision. Quand on dit que le divorce n'est pas contentieux, ça veut dire que vous ne passez, ça ne veut pas dire que vous ne passez pas devant le juge. Ça veut dire que ce n'est pas un divorce où il y a un contentieux, un différend. Vous êtes d'accord sur quelque chose, vous vous demandez l'homologation par le juge. Le rôle que le juge a joué dans un consentement mutuel, c'est l'homologation. Et pour cela, effectivement, et vous pouvez même passer par la voie du notaire et la présence des deux avocats. C'est ce que vous devez faire.
Acter oui, par. Mais oui. L'avocat de ma conjointe, elle dit que pour que la nouvelle loi qui est rentrée en 2016, qu'elle oui. ne maîtrise pas trop, donc elle ne devait pas prendre ce risque de passer devant l'hôtel. Tout du coup, le mien est passé devant un juge. On est passé devant le juge. On a signé le certificat de non-conciliation depuis plus d'un an.
Très bien.
Et à cette date d'aujourd'hui, je ne le suis pas toujours.
Très bien. Alors, ce que monsieur, je vous conseille, on va y revenir, mais rapidement.
Monsieur Doucouré, à l'hôtel, on va peut-être proposer à monsieur Doucouré de ne pas raccrocher, hein, de garder l'écoute. On va donc vous donner les explications au téléphone dans quelques instants. Donc ne raccrochez surtout pas parce que le temps est pratiquement terminé, hein, à l'hôtel. Donc on se retrouve la semaine prochaine avec une autre thématique.
Et on va commencer par monsieur Doucouré, c'est mieux ainsi.
On commencera par monsieur Doucouré. Donc vous pouvez encore écouter cette émission en podcast sur les www.africa1.com. Merci à l'hôtel.
Merci Phil.
C'était Le Droit et Nous dans la grande matinale avec Aliou Tal sur Africa numéro 1.